vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 4 juin 1936, le Front populaire accède au pouvoir. Les élections législatives des 26 avril et 3 mai 1936 marquent un glissement vers la gauche qui obtient 378 députés et un effritement des partis du centre qui perdent une cinquantaine de sièges. Au sein de la fraction majoritaire, les communistes passent de 11 à 72 députés et la SFIO de 131 à 149, au détriment des radicaux qui n'en comptent plus que 109. Aussitôt les résultats proclamés, des cortèges se forment dans les quartiers ouvriers de Paris et de sa banlieue, où un cri retentit. Les soviets partout. Mais les soviets ne sont pas encore au pouvoir. Le président du Conseil, Albert Sarraut, est toujours installé à Matignon. Son successeur, Léon Blum, chef de file des socialistes, n'est pas pressé de le remplacer. La distribution des portefeuilles ministériels se révèle une tâche délicate. D'emblée, les communistes refusent de participer au gouvernement. Ils entendent ainsi garder la liberté de critiquer. Le climat de kermesse populaire s'estompe bientôt. Au Havre et à Toulouse, 5 ouvriers sont licenciés pour avoir chômé le 1er mai. Alors éclatent les premières grèves de protestation qui se propagent rapidement aux grandes entreprises aéronautiques. Le 11 mai, Breguet débraye, imité le 13 par l'Atécoère et le lendemain par les établissements Bloch, futur Dassault à Courbevoie. Les ouvriers occupent leur usine. Fin mai, la grève gagne peu à peu tous les secteurs industriels. Comme les ouvriers s'interdisent de rentrer chez eux, leurs épouses viennent les voir. À travers les grilles et barreaux s'échangent caresses et baisers. Les ménagères apportent ravitaillement, couverture et vêtements. Cette atmosphère bon enfant cache une détermination sans faille. Partout, il est signifié au patron qu'il leur est interdit de paraître. Ils sont prévenus que s'ils s'avisent de faire donner les forces de l'ordre, les ouvriers casseront le matériel et mettront le feu au bâtiment. Dans les premiers jours de juin, la France compte 1 million de grévistes répartis en 12 000 entreprises. Les grèves concernent l'industrie du bâtiment, la papeterie, l'horlogerie, les teintureries, les distilleries et les blanchisseries. Les 35 000 ouvriers de Renault rejoignent le mouvement le 28 mai. Le personnel des grands magasins parisiens, Bon Marché et Samaritaine cesse à son tour le travail. Le 24 mai, la commémoration des morts de la Commune au mur des Fédérés draine un cortège de 600 000 personnes. Les militants promènent à bout de bras des portraits de Louise Michel, Victor Hugo, Jules Vallès, Gustave Courbet. Des jeunes filles communistes revêtent le costume de 1793. Des socio-chrétiens portent une croix avec la faucille et le marteau. Le 4 juin, le cabinet du Front populaire est enfin constitué. 4 députés radicaux socialistes, Édouard Daladier, Marc Rucard, Yvon Delbos et Jean Zay reçoivent les portefeuilles de la guerre, de la justice, des affaires étrangères et de l'éducation nationale. La SFIO occupe les ministères des Finances avec Vincent Auriol, l'Intérieur attribué à Roger Salingros, la Justice, l'Économie nationale, l'Agriculture et les Travaux publics. L'apparition d'un ministère des Sports et Loisirs confié à Léo Lagrange traduit l'orientation sociale du nouveau gouvernement. Par ailleurs, 3 postes de sous-secrétaire d'État sont attribués à des femmes alors qu'elles n'ont pas le droit de vote. Présenté le 5 juin à la Chambre des députés, le cabinet Léon Blum obtient la confiance de l'Assemblée par 384 voix contre 210. Dès son arrivée en fonction, le gouvernement de Front populaire est confronté aux grèves qui se durcissent. Des bagarres ont lieu à Paris, au Quartier Latin et en province. Des drapeaux rouges apparaissent dans les mairies. Les capitaux partent à l'étranger. Il faut remettre au plus vite le pays sur ses rails. Et pour cela, convoquer les représentants des patrons et des ouvriers. L'initiative de la négociation vient du patronat. Le comité des forges demande à Léon Blum d'organiser une rencontre avec les syndicats. Elle a lieu le 7 juin à l'hôtel Matignon. Les revendications ouvrières composent un important cahier de doléances qui énumère 12 exigences, dont la semaine de 40 heures. Les congés payés de 15 jours par an, l'augmentation des salaires, l'élaboration d'un plan de grands travaux, la prolongation de la scolarité et la réforme du statut de la Banque de France. Parmi les objectifs à atteindre, au-delà des congés payés, le programme revendicatif prévoit la création d'un fonds de chômage, l'assurance contre les calamités agricoles, un aménagement des dettes paysannes et l'institution d'une dette aux vieux travailleurs. Après avoir déclaré ses prétentions inacceptables, le patronat finit par céder. Les accords Matignon sont signés le 8 juin à 1h du matin. Ils admettent l'existence d'une vie syndicale avec des délégués du personnel dans les établissements de plus de 10 salariés. Les salaires réels sont augmentés de 15% pour les plus bas et de 7% pour les plus élevés, sans que l'augmentation globale ne dépasse 12%. Léon Jouot, secrétaire général de la CGT, commente l'événement à la radio. Pour la première fois dans l'histoire du monde, toute une classe obtient dans le même temps une amélioration de ses conditions d'existence. Les 11 et 12 juin, le gouvernement fait voter les lois instituant les conventions collectives obligatoires et les congés payés, tout en réduisant, sans diminution de salaire, à 40 heures la durée du travail hebdomadaire. Plus tard sont votés les textes concernant les anciens combattants, ceux instituant un office national interprofessionnel du blé. Les ligues sont dissoutes. La scolarité obligatoire passe de 13 à 14 ans. Enfin, les industries de guerre sont nationalisées et la Banque de France étatisée. Les milieux patronaux réagissent de deux façons opposées. Les plus grandes entreprises, dont les délégués ont participé aux accords Matignon et qui disposent de solides ressources financières, s'accommodent de la nouvelle situation. Les petites entreprises, qui fonctionnent souvent à la limite de la rentabilité, n'ont pas les moyens de moderniser leur équipement et rattraper par l'automation ce qu'elles perdent en coût de main-d'œuvre. La Confédération générale de la production française éclate. Les dirigeants des petites et moyennes entreprises tentent de limiter l'application des lois syndicales sous prétexte d'agitation politique et sociale. Le 11 juin, Paul Reynaud lance à Léon Blum « Vous avez traité avec les 200 familles, alors que 70% des ouvriers français travaillent dans des usines occupant moins de 100 ouvriers. Et ce sont ces entreprises que vous frappez en plein cœur. À la croisée des chemins, vous avez pris la route des dictatures plutôt que celle des démocraties. » La grande conquête des accords Matignon reste les 15 jours de congés payés, qui permettent aux prolétaires de goûter aux vacances. Un vieil ouvrier écrit à Léon Blum « Merci, monsieur le Président, de m'avoir permis de découvrir la mer avant de mourir. » Une petite fille de 10 ans lui envoie une carte postale ainsi rédigée « Grâce à vous, j'ai fait la connaissance de mes grands-parents qui habitent la Bretagne. » Les occupations d'usines ne cessent pas. Lutte ouvrière recommande la formation de milices ouvrières armées. Nationalistes et communistes se heurtent un peu partout. De violentes bagarres éclatent à Paris, gare Saint-Lazare. Drapeaux tricolores et drapeaux rouges marseillaises et internationales s'opposent. Les rapports entre communistes et socialistes s'aigrissent. Les plus durs parmi les premiers veulent transformer le mouvement en révolution. Les seconds estiment qu'il s'agit de consolider les premiers résultats en restant dans le cadre légal. Quant aux radicaux, ils affirment déjà être allés au plus loin. Ils refusent de sacrifier la liberté et le droit de propriété. Le 11 juin, Maurice Thorez, qui comprend que la révolution ne passerait pas, lance son célèbre mot d'ordre. Il faut savoir terminer une grève. Le reflux s'amorce lentement, comme à regret. Début juillet, 1200 établissements sont encore occupés. La France compte 120 000 grévistes. Roger Saint-Lingros, le ministre de l'Intérieur, promet devant les députés d'envoyer des gendarmes désarmés pour évacuer les usines. L'amorce des temps nouveaux que symbolise l'avènement du Front populaire s'observe lors de la fête nationale du 14 juillet. Dans l'après-midi, après le traditionnel défilé militaire, 400 000 personnes participent à l'immense cortège de la gauche unifiée qui se déroule de la Bastille à la République. Dans la tribune, Léon Blum tend le poing, Maurice Thorez lève une main ouverte. Nous allons marquer une pause musicale dans cette émission Historama avant de retrouver la chronique littéraire « Un jour, trois livres » préparée par Emmanuel. Nous écoutons Michel Jonas qui nous accompagne tout au long de cette émission avec l'un de ses premiers succès. C'était en 1974. « Dites-moi ».
Elle avait toujours dans son porte-monnaie l'île au trésor et des pièces de 1 franc usées. Un pinceau de poils de marte pour mettre des rideaux bleus aux fenêtres de ses yeux, aux fenêtres de ses yeux. Un livre à la main sur le balcon, elle s'endormait dans un vieux fauteuil de manille. Je cherchais des prénoms, Mathieu, Cécile, en regardant courir vers 10 heures dans l'école des filles et des garçons. Dites-moi, dites-moi même qu'elle est partie pour un autre que moi, mais pas à cause de moi. Dites-moi ça, dites-moi ça. Dites-moi, dis-moi même qu'elle est partie pour un autre que moi, mais pas à cause de moi. Dites-moi ça, dites-moi ça. Dans mon cœur vaudou, il y a 4 épingles qu'elle a pris soin d'abandonner pour que je pleure. J'ai cloué ma porte, qu'est-ce qui m'a pris? J'ai brisé le miroir où elle faisait ses tresses, mis du papier journal sous les fenêtres. J'entendais de l'école trop de cris, il n'est rien né de notre lit. Dites-moi, dites-moi même qu'elle est partie pour un autre que moi, mais pas à cause de moi. Dites-moi ça, dites-moi ça. Dites-moi, dites-moi même qu'elle est partie pour un autre que moi, mais pas à cause de moi. Dites-moi ça, dites-moi. Dites-moi, dites-moi même qu'elle est partie pour un autre que moi, mais pas à cause de moi.
Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour, la chronique littéraire Un jour, trois livres, préparée par Emmanuel et que j'ai plaisir à vous présenter pour commencer. Le Lion d'Alexandrie de Jean-Philippe Fabre s'est publié aux éditions du Cerf. Qui est ce meneur d'hommes devant lequel Johanan, un garçon de Jérusalem, s'enfuit un soir dans la vallée du Cédron? Pourquoi faut-il 30 années d'un périple sans concession à Johanan, qui reçoit le nom romain de Marc, pour sonder cette énigme? Comment, parvenu à Rome, écrit-il la vie de cet homme mystérieux et compose-t-il le premier des 4 évangiles? Où Marc peut-il s'en retourner si ce n'est dans la ville de son cœur, la splendide Alexandrie, là où par sa fougue et par son cran, il restera à jamais l'auteur. Jean-Philippe Fabre nous relate cette aventure épique qui court sur le premier siècle à travers la Méditerranée. En tant qu'historien, il nous dévoile les secrets de l'Empire romain ainsi que les arcanes de l'Église primitive et surtout, il nous plonge dans cette antiquité mélange de bienveillance et de cruauté. Nous voici pérégrinant auprès de Marc, le lion d'Alexandrie. De Jean-Philippe Fabre, c'est publié aux éditions du Cerf. L'âge d'or de René Rosen aux éditions Bellefond. Voici le féminisme mis en avant grâce à deux figures injustement méconnues. Enfant, Alva a assisté à la ruine de son père et à la déchéance de sa famille. Depuis, elle s'est jurée de ne plus jamais connaître la misère et de prendre sa revanche sur le destin. Mais dans cette Amérique du tournant du XXe siècle, tenue du main de fer par une bourgeoisie vieillissante sûre de ses privilèges, quelle place pour une femme certes ambitieuse mais roturière. Le mariage d'abord, à force de manigances, Alva épouse un héritier Vanderbilt et s'assure ainsi une fortune colossale. L'image ensuite, invitation fastueuse, bal extravagant, Alva ne recule devant rien. Et tant pis pour celle qui ne voit en elle qu'une cocotte parvenue. La couronne, enfin. Alva va trouver sur son chemin la reine de la ruche, celle qui a fait et défait les réputations, adoube ou exclue selon son bon plaisir, Caroline Astor. Pendant 30 ans, les deux femmes vont se livrer une guerre qui deviendra légendaire. Et façonner au passage une figure plus moderne de la femme, plus émancipée, capable de s'assumer seule dans le monde, en dehors d'un riche époux volage. Et surtout, réfléchir aux femmes, essentiellement celles de modestes conditions ou celles qui ne peuvent se défendre seules. Une réelle réflexion sur la condition féminine de l'époque. L'âge d'or de René Rosen s'est publié aux éditions Bellefond. Et nous terminons cette chronique par le paladin du Python de la Fournaise de Jean-Raoul Ismaël aux éditions LBS. Aîné d'une fratrie de 10 enfants, le petit Jean-René Malaisie est issu d'une modeste famille de l'île de la Réunion. Son père est garagiste, peu assidu à l'école, un amour impossible mènera à Paris. S'ouvre alors pour lui un parcours inattendu, jonché de désillusions, de rivalités et de trahisons. Pourtant, son courage et le travail lui font connaître la réussite. Il accède à la fortune, au luxe, mais un jour, comme un revers de médaille, il est contraint de cesser son activité et perd tout. Sa capacité à rebondir et la foi en sa bonne étoile vont alors le pousser à reprendre son ascension. Et il retrouvera sa sérénité sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, son chemin de Damas. Ce roman est tiré d'une histoire vraie, celle de l'auteur, lui aussi issu d'une modeste famille de 10 enfants à Saint-Denis de la Réunion. Le paladin du Python de la Fournaise, c'est signé Jean-Raoul Ismaël et c'est publié aux éditions LBS. Merci à Emmanuel d'avoir préparé cette chronique littéraire. Merci à Lucas d'avoir réalisé cette émission. Et c'est en chanson que nous nous séparons avec toujours Michel Jonas. Nous écoutons un titre de 1985, La boîte de jazz.
Prêt pour le bop, hey! Bebop.
Bakker,
je connais Bakker.
Et fils, le nom est Davis. tous les succès de Duke Ellington, tous les standards de Scott Hamilton, Leonard Lampton, Scott Hamilton, Duke Ellington.
We'll be right back.